Le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche et bonjour, merci de nous accueillir chez vous. À la une de ce magazine, la MONUSCO hausse le ton et impose une zone de sécurité entre Goma et Sake. Tous les groupes armés avaient 48 heures de mardi à jeudi dernier pour déposer leurs armes. Et pour le commandant de la force de la MONUSCO, il ne s'agit là que d'une première étape. 224 millions de dollars dépensés dans les projets exécutés par l'UNOPS en RDC les 10 dernières années. La semaine dernière, Wagner Maxen, conseiller principal de cette agence, a animé à Kinshasa un atelier sur les bonnes pratiques de gestion de projets. Dans cette édition, vous allez suivre l'entretien qu'il a accordé au magazine des Nations Unies. Ce sera dans Décryptage. Santé, environ 6 millions de Congolais souffrent de l'hépatite, une maladie insidieuse, silencieuse. Le 28 juillet dernier, c'était justement la journée mondiale de l'hépatite. Dans cette édition, un épidémiologiste de l'OMS RDC est notre invité. Il va notamment expliquer pourquoi la prévalence de cette maladie est si élevée en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies. Actualité de la semaine.
C'est depuis jeudi 1er août à 16h que l'ultimatum de 48 heures lancé aux groupes armés, y compris le M23, de déposer les armes sur un rayon de 30 km autour de Goma, a expiré. Les groupes armés qui écument le Nord Kivu ont été sommés de déposer les armes et de rejoindre le processus DDR, sinon la mission onusienne devra user de la force. La MONUSCO considère toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale et possédant une arme à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville comme une menace imminente pour les civils. Retour sur les faits avec Jean-Pierre Elali Coco.
Mardi 30 juillet, les commandants des forces de la MONUSCO s'expriment sur un ton ferme. Les rebelles du M23 et les autres groupes armés équipant le Nord Kivu ont 48 heures pour remettre leurs armes. Et pour le général Carlos Santos Cruz, ce n'est qu'une première étape.
Ceci ne constitue qu'une première étape. Donc, en fonction des situations, parce que chaque zone également a ses réalités qui lui sont propres. En fonction des réalités sur le terrain, nous allons nous adapter. Mais c'est nous qui prenons l'initiative de ce que nous allons faire. Les modes d'action que nous allons utiliser, ce sont nos modes d'action. Mais ce sera en fonction de l'étude qu'on aura faite par rapport à l'environnement. Chaque environnement est différent de l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui à Goma et à Sake, c'est une première étape. Parce que nous avons besoin de sécuriser la ville de Goma et de Sake. Un, parce que c'est un point très sensible. Vous avez vu toutes les vérité de conquête de la ville de Goma par l'Antenne, c'est ce qui justifie, ça se justifie par l'importance de Goma. La deuxième chose, sa position également stratégique. La deuxième chose, il faut savoir que l'esprit du mandat, c'est la protection des civils.
La MONUSCO appuiera les FARDC à établir autour de Goma et Sake une zone de sécurité, a encore affirmé le commandant des forces de la MONUSCO. Zone de sécurité, alors pour quelle mission de la force onusienne? Mercredi 30 juillet à Kinshasa, le représentant spécial intérimaire du secrétaire général de l'ONU l'explique clairement devant un parterre de journalistes venus à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Moustapha Soumaré.
N'oubliez pas que la brigade, l'essence même de la brigade d'intervention, ce n'est pas simplement une armée qui va aller pour combattre comme ça. L'idée, d'abord premier, dans la résolution, c'est vraiment s'orienter dans le sens de protéger la population. Donc il est clair que les premiers actes qui devraient être posés devraient être de façon très claire marquée par le fait qu'il s'agit véritablement pour la force en général de protéger vraiment les populations. Et dans ce contexte-là, la zone de Goma et de Sake, bien sûr, par rapport à la population et à la population vulnérable qui est, se présente comme étant une zone favorable. Et c'est pourquoi une des réactions primaires que normalement on doit avoir, c'est de dire comment on va pouvoir protéger des populations, on a plus près d'un million d'habitants.
Question, qu'est-ce qui va se passer réellement sur le terrain au-delà du délai des 48 heures? Le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire, affirme qu'une série de mesures contraignantes sont envisagées.
Au-delà du délai de 48 heures, ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a des modes d'action qui vont être mis en œuvre, notamment des bouclages, des fouilles, parce que notre mandat aussi nous le permet, la conduite de patrouilles intensives dans des zones que nous aurons aussi au préalable déterminées. Donc en fait, c'est une batterie de mécanismes de concert dans une coopération très fructueuse avec les forces de sécurité nationale pour essayer d'apporter un peu plus de sécurité dans ces zones-là.
Pour sa part, le gouvernement congolais apportait tout son appui à cet ultimatum. Selon le porte-parole du gouvernement, cela cadre bien avec la mission de la MONUSCO. Le ministre Mende pense qu'il faudra procéder au désarmement forcé en cas de désobéissance pour la sécurité du Nord Kivu.
Et pour terminer ce dossier, ce cri d'alarme de la société civile du Nord Kivu, elle dénonce l'appui militaire de l'Ouganda et du Rwanda au M23. Écoutez à ce sujet Omar Kavota, président de la société civile du Nord Kivu. Il appelle le gouvernement et la MONUSCO à prendre des mesures nécessaires pour protéger la population.
Le week-end dernier, des éléments de la RDF se sont déployés aux côtés du M23. On a enregistré des portants mouvements, des portants déploiements des éléments de l'armée rwandaise qui viennent en appui au M23, qui compte assurer la connexion une fois les éléments M23 devant venir de Rumangabo et de Rugari pour essayer d'attaquer de nouveau les éléments de FRDC. En territoire de Beni, nous avons des informations fiables qui font état de l'entrée des troupes de l'armée ougandaise, de l'UPDF, pour venir en appui aux milices locales encore actives dans les territoires de Beni. La situation est très grave et les autorités au niveau gouvernemental devraient prendre des dispositions. Nous en appelons également à l'implication de la brigade d'intervention des Nations Unies qui traîne les pieds alors que la sécurité des millions de populations du Nord Kivu continue à être menacée.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Qu'est-ce qu'un projet? Comment gérer un projet? Et quel est l'impact de la gestion des projets exécutés en RDC les 10 dernières années par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS? Wagner Maxen, conseiller principal du groupe Gestion durable des projets au siège de cette agence, a animé à Kinshasa le 25 juillet dernier un atelier sur les bonnes pratiques de gestion de projets. Il donne des réponses à toutes ces questions dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala. Suivant.
Monsieur Wagner Maxen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu du siège pour conduire un atelier de bonnes pratiques en gestion de projets. Qu'est-ce que vous entendez par projet?
Merci. Les projets sont là pour achever des objectifs. Donc, les projets viennent de la stratégie organisationnelle. Donc, chaque entreprise, chaque organisation a le but, soit le but lucratif ou pas lucratif. Un projet, il a une définition officielle, c'est un effort temporaire. Il y a un fin, il y a un début et un fin. Il faut produire un résultat, il faut offrir un service. Et on utilise des ressources. Donc ça, c'est la définition du projet.
Alors pourquoi un atelier de bonnes pratiques en gestion de projet?
Ah oui, c'est une bonne question. Nous sommes là parce que pour les projets, le plus facile, c'est de les faire échouer. C'est très très facile de mettre les projets en échec. Donc nous sommes là pour mieux comprendre les pas à pas, d'une manière très très pratique, de ce que nous faisons pour achever les objectifs des projets. Donc nous avons organisé cet atelier-là pour montrer à nos partenaires la manière par laquelle nous travaillons, par la manière par laquelle nous focusons les objectifs de notre partenaire. Donc c'est une manière très très pratique pour voir tous les cycles de vie d'un projet et pour mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Oui, quels sont vos partenaires dans cet atelier?
Les partenaires présents à cet atelier sont d'une part les gouvernements congolais et les bailleurs de fonds qui travaillent dans le développement et l'humanitaire et qui nous ont demandé de prester en leur nom des services en nous confiant par exemple la gestion d'un projet. Pour n'en citer que quelques bailleurs, les Royaume-Uni, les Pays-Bas, les PAM, FAO, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement. D'autre part, sont présents également les organismes de l'État congolais avec qui nous travaillons toujours en étroite coordination. par exemple les BCSEO, l'Office des routes et évidemment tous les ministères concernés par nos activités.
Monsieur Wagner Marcène, d'où viennent les projets gérés par l'UNOPS et dans quel domaine?
L'UNOPS ne met en œuvre que les projets qui lui sont confiés par les partenaires et ses interventions, comme toutes celles des Nations Unies en RDC, sont alignées sur les priorités stratégiques du gouvernement congolais. La gestion des projets peut recouvrir de nombreux domaines tels que les infrastructures, l'environnement ou les élections. À titre d'exemple, lors de l'élection de 2011, l'UNOPS a apporté un appui logistique au déploiement des observateurs de l'Union européenne, par exemple. Plus précisément, les activités de l'UNOPS en RDC recouvrent, entre autres, des services sociaux de base, avec la construction d'écoles, des centres de santé, d'hôpitaux, des marchés, des systèmes d'adduction d'eau et des réseaux de distribution d'électricité. Les activités concernent également des travaux d'infrastructures, des transports, comme la réouverture et la réhabilitation des routes. Actuellement, des travaux sont en cours en Équateur, en Provence orientale, au Maniema, ainsi qu'au nord et au sud Kivu, que ce soit dans le cadre de la relance agricole ou du plan de stabilisation de l'Est du pays. Par exemple, dans le cadre de la stabilisation de l'Est du pays, l'UNOPS a aussi construit 47 bâtiments de l'État, tels que des administrations, des tribunaux, des prisons ou encore un centre de formation de la police nationale. L'environnement fait partie de nos projets, comme le soutien à l'observatoire volcanologique de Goma, mais aussi en mettant en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale lorsque nous rouvrons des routes. Tous nos projets incluent le renforcement des capacités nationales des organismes de l'État, mais aussi des entreprises privées congolaises avec qui nous travaillons toujours sur le terrain.
On revient à la compréhension des concepts. Qu'est-ce que vous entendez par la gestion des projets?
Il s'agit de manière très simple d'employer des techniques et des outils pour achever le but du projet. Il faut faire des formations pour l'équipe, il faut utiliser les techniques que nous en appelons des bonnes pratiques. Enfin, c'est d'achever le but du projet de manière plus adéquate, plus économique, d'achever le but du projet, mais toujours en considérant les contraintes du lieu, les contraintes de ressources et les besoins qui doivent être achevés.
Oui, un autre concept, c'est la gestion durable des projets.
Par rapport à la gestion durable du projet, il faut dire qu'il s'agit de non seulement penser dans le produit final du projet. Nous sommes là en train d'exécuter les projets. Quelle sera la manière la plus efficace pour laisser que, par exemple, les gens qui travaillent dans les projets, les locales, la population locale qui travaille, les communautés qui travaillent et qui sont impliquées par les projets, les produits, les projets, les services des projets, pour qu'ils puissent aussi participer et être vraiment développés. Et aussi l'utilisation des matériels qui sont durables. Donc nous ne pensons pas seulement en délivrer un produit au présent. Nous pensons en délivrer quelque chose qui soit durable pour l'avenir.
Monsieur Werner Marcène, parlez un peu des chiffres, si c'est possible. Combien de projets UNOPS a déjà géré ces 10 dernières années en RDC? Et peut-être aussi la hauteur globale de leur financement.
L'UNOPS, qui est donc une agence de mise en œuvre, et non un bailleur de fonds, présente ses états financiers selon ses dépenses effectives. Depuis 10 ans, l'UNOPS a donc dépensé 224 millions de dollars au Congo. Nous avons mis en œuvre 40 projets.
Alors, quel a été l'impact de ces projets?
Bon, il serait difficile de faire une synthèse étant donné la diversité des projets. Mais nous pouvons dire qu'en plus de 13 années, les travaux d'infrastructure, par exemple, ont concerné plus de 6000 km de routes et 230 bâtiments construits ou rénovés. Si nous comptons tous les travaux d'infrastructure, de bâtiments et routes réunis, au total, plus de 6 millions de journées de travail rémunérées ont été créées pour la population congolaise. À travers la RDC, plus de 500 chefs d'équipe de travaux ont été formés aux méthodes à haute intensité de main-d'œuvre et environ 150 clercs, les comités locaux d'entretien et de réhabilitation, ont été installés. Ça veut dire la question de la gestion durable des projets.
Monsieur Azner Marcène, merci.
Merci à vous.
3 millions de dollars américains, c'est ce qu'il faut pour les humanitaires afin de venir en aide à plus de 22 000 enfants malnutris et à environ 1 500 femmes enceintes et allaitantes dans la province du Katanga. Selon OCHA, ces personnes nécessiteuses se trouvent notamment dans les territoires de Bukama, Kambove, Kasenga et Kinda. Parmi les enfants, des enfants malnutris, plus de 15 000 souffrent de malnutrition aiguë, sévère, précise pour sa part les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. 705 cas d'agression sexuelle recensés depuis janvier 2013 dans la province du Nord Kivu. Un cri d'alarme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans un communiqué publié mardi dernier à Kinshasa, le HCR parle d'une augmentation alarmante des agressions sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Désormais, l'aéroport de Bunia opérationnel de nuit comme de jour. La piste de cet aéroport balisée sur financement de la MONUSCO a été inaugurée lundi 29 juillet. La mission a également doté l'aéroport de Bunia de matériel de radiocommunication opérationnel dans un rayon de 120 km, coût total du matériel de l'exécution des travaux sur la piste, 450 000 dollars américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous vous le disions dans le sommaire, la communauté mondiale a célébré dimanche 28 juillet 2013 la journée contre l'hépatite, une maladie multiforme et à l'évolution silencieuse et très souvent fatale. Le docteur Léon Kinoani, épidémiologiste à l'OMS RDC, est notre invité. Il parle de cette maladie et de l'importance de cette journée mondiale et surtout des facteurs justifiant le taux très élevé des personnes souffrant d'hépatite en RDC. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koukou.
Docteur Léon Kinoani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'OMS. La communauté internationale a commémoré dimanche 28 juillet dernier la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Docteur, dites-nous, qu'est-ce que c'est l'hépatite ?
L'hépatite, c'est l'ensemble des infections aiguës et chroniques du foie qui sont causées par 5 virus et qui, à terme, peuvent causer des pathologies graves du foie, notamment la cirrhose et les cancers du foie.
À quoi est due ces infections ?
Cette infection ou cette inflammation aussi est due à la présence de 5 types de virus qui prennent conventionnellement les lettres de l'alphabet, notamment le virus A, le virus B, le virus C, le virus D, le virus E. Donc c'est l'ensemble de ces 5 types de virus qui causent naturellement l'hépatite.
Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un a vraiment l'hépatite ?
À portée de vue, il est difficile de savoir que directement cette personne a les signes de l'hépatite parce que justement les signes de l'hépatite se confondent avec les signes d'autres maladies infectieuses.
Par exemple,
que le paludisme, la fièvre jaune et tous les autres types de viroses peuvent se confondre cliniquement au signe de l'hépatite. Mais ce qui peut être dominant, qui peut être orienté le clinicien, c'est l'échec au traitement habituel. Quand le malade présente, par exemple, le signe de fatigue, la fièvre, et parfois avec un ictère aussi, ces signes-là, généralement, sont étiquetés comme un paludisme dans notre milieu. Très souvent, quand le malade ne répond pas au traitement contre le paludisme, on peut s'orienter à ces types de pathologies dont les signes sont confondants par rapport aux autres maladies que je viens de citer.
Docteur, vous avez parlé tout à l'heure des hépatites A, B, C, voire D. Quelle en est la différence ?
La différence se situe surtout par rapport au mode d'abord de transmission et puis beaucoup plus aussi par rapport à la configuration du virus lui-même. Le virus est composé d'un certain nombre de constituants, des enveloppes, etc. La différenciation est liée notamment à cette composition biologique microscopique du virus. Mais les modes de transmission sont globalement presque les mêmes, quoi.
Les modes de transmission sont les mêmes, mais on dit souvent que l'hépatite A, par exemple, est bénigne.
Bénigne, mais comme on dit, c'est déjà une maladie, même si elle est bénigne, mais à force d'harceler le foie risque de mal répondre, même si c'est bénigne. C'est bénigne dans le sens que vous pouvez vous remettre sans qu'il y ait un traitement ou une prise en charge médicale spéciale. Mais c'est un virus qui, à la longue, à force d'altérer ou de solliciter le foie, peut conduire aussi à des conséquences majeures que j'ai indiquées au-dessus.
Est-ce qu'on peut avoir un état de lieu de cette maladie en République démocratique du Congo?
D'abord, je voudrais vous rapporter à une étude que l'OMS a supportée ou a financée dans plus ou moins 132 pays du monde. Et ceci a révélé que pratiquement la surveillance de l'hépatite de manière globale est quasiment inexistante. Pour des raisons que je vais d'indiquer, vous avez d'abord un très grand nombre de personnes qui sont atteintes par la maladie, qui s'ignorent, plus de 600 millions de personnes qui sont atteintes chaque année dans le monde. Vous avez 1,5 million de décès dus à l'hépatite. Mais avant que nous puissions avoir à des conséquences graves, la maladie évolue à bas bruit, comme on dit. La personne est malade et parfois avec des signes dont j'ai parlé tout à l'heure qui se confondent aux autres types de maladies. Et donc, vous ne vous inquiétez pas outre mesure. Vous évoluez, mais après une dizaine d'années vont survenir les conséquences fatales, notamment la cirrhose et les cancers. Alors, je disais que la surveillance de l'hépatite pose quand même des problèmes, mais elle est possible. Dans notre pays, vous savez qu'il y a un grand nombre de personnes également qui sont atteintes. Mmh. Pour diagnostiquer, ça veut dire qu'il faut disponibiliser les marqueurs immunologiques, c'est-à-dire les tests de laboratoire. Et ces tests coûtent énormément cher.
Et ici en République démocratique du Congo ou bien dans le monde?
Dans le monde. Donc ça veut dire que si nous devons faire le test de diagnostic, il faut disponibiliser dans tous les hôpitaux de la RDC ces marqueurs. Or, vous savez déjà, on a des gros problèmes en ce qui concerne les réactifs élémentaires, par exemple, pour la goutte épaisse, pour les examens de sang, etc. On n'a pas tout ça dans tous les pays. Donc, la prévalence de la maladie, elle est très importante, de sorte qu'il est difficile d'organiser une surveillance. Et en plus aussi, les signes d'orientation pour qu'on indique l'examen de laboratoire, il faut que ces signes soient classiques pour l'hépatite. Or, ces signes se confondent avec d'autres maladies. Donc, toutes ces difficultés font que, en réalité, il y a quand même une difficulté d'avoir une surveillance épidémiologique, je dirais, de qualité. Mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même, à l'heure actuelle, avoir une idée par rapport aux conséquences. La cirrhose, le cancer du foie. Là, on a des fiches de notification dans les hôpitaux et les diagnostics est plausible et à la portée de tous les médecins, quoi. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais le gros des problèmes, c'est que la surveillance, comme j'ai dit, pose des problèmes par rapport au nombre de malades, par rapport à l'évolution silencieuse de la maladie. Donc, on ne sait pas s'orienter à portée de vue. Et ça, c'est un cas d'hépatite, il faut que je confirme.
Mais 6 millions de Congolais porteurs d'hépatite chronique, c'est quand même important sur les 60 millions supposés des Congolais que nous sommes. Docteur, comment expliquer ces taux élevés?
Pourquoi on a une prévalence si élevée? C'est compte tenu de moyens et de facteurs d'exposition. Parmi les facteurs d'exposition, vous avez, par exemple, des mesures d'hygiène qui ne sont pas respectées. Vous avez des gens qui font les tatouages, vous avez des femmes ou des hommes qui font les piercings, vous avez les transfusions sanguines quand elles ne sont pas contrôlées, quand vous consommez des aliments qui ne sont pas propres, qui ne sont pas bien bouillis, qui ne sont pas protégés. Une femme enceinte, lorsqu'elle néglige son hygiène corporelle, peut également être un facteur de risque. Tous ces facteurs de risque font que dans nos milieux, c'est pratiquement monnaie courante, on a ça. Donc on ne peut pas se tenir qu'il y ait un grand nombre de cas d'hépatite.
Quel fait l'OMS pour la prise en charge des malades?
D'abord, il y a deux mesures classiques parce que c'est un problème de santé publique. La première des mesures la plus efficace, c'est la prévention. L'OMS a en fait trouvé utile de créer cette journée mondiale de sensibilisation. Le 28 juillet, c'est la journée mondiale de l'hépatite. Le fait de donner cette sonnette d'alarme qui permet aux décideurs d'avoir une oreille attentive à ces problèmes de l'hépatite, d'une part, la sensibilisation que nous avons conduite, que nous sommes en train de faire, elle participe dans la prévention. Troisièmement, vous avez la vaccination. L'OMS a aidé le pays, la RDC en l'occurrence, à introduire ces nouveaux vaccins depuis 2007. Mmh. Tout le pays aujourd'hui, les enfants de 0 à 11 mois sont vaccinés contre l'hépatite. Ça, c'est des activités en amont et en aval, évidemment, quand les gens sont malades. Et l'OMS, par exemple, a mis sur la liste actuelle des médicaments essentiels les antiviraux par rapport aux hépatites. Donc, ce sont des médicaments qui sont homologués par l'OMS. Et donc, ces médicaments sont apportés. Les gens peuvent être traités. Donc, voilà le menu de mesures préventives et de prise en charge que l'OMS encourage dans les États.
Docteur Léon Kinyani, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Et notre nouvelle en province d'aujourd'hui est une bonne nouvelle. Au Nord Katanga, amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Pueto, à 450 km au sud-est de Kalemie. Le constat fait par la MONUSCO lors d'une mission d'une semaine dans ce secteur, les autorités civiles et militaires se disent déterminées à sécuriser la zone. François-Xavier Nibé.
C'est le un tiers du territoire des Pueto qui échappe encore au contrôle des autorités civiles et militaires en place. Des efforts engagés par les FRDC dans la région sont à mettre sur le compte de l'actif obtenu aujourd'hui. Il y a 6 mois, les groupes Mai Mai et autres Katakatanga ont empêché les mouvements des populations. Le danger est de plus en plus éloigné des centres-villes dans la zone. Un habitant témoigne. Les produits des champs proviennent de l'intérieur, de Manono, de Mitwaba, mais partout, il y a des fronts de militaires et ceux de Mai Mai. Toutes les activités commerciales sont paralysées dans la ville et il ne reste que moi pour la rentrée scolaire. Tout ne va pas bien encore. La route de Pueto et Moba est devenue peu à peu accessible au trafic routier, ce qui n'est pas encore possible sur les tronçons de Pueto Kasenga vers Lubumbashi. Les FRDC ont multiplié les actions sur le groupe Mai Mai. Le dernier cas signalé au village de Kato, à 95 km à l'ouest de Pueto, s'est soldé par 2 morts du côté des Mai Mai. Une autre activité militaire semblable a libéré 10 de femmes prises en otage par les Mai Mai en avril dernier. L'administrateur du territoire des Pueto, Célestin Gombe.
Nous sommes en train de retrouver progressivement la paix et nous irons jusqu'au bout. Aucune portion du territoire ne peut nous échapper au contrôle. Donc c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment.
François-Xavier Mibé, des retours de Pueto, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Kingoudi Grégoire, je suis gravataire au sein de l'unité dispatch et transport MONUSCO. Je suis marié à Madame Lambou-Marie, père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. L'aîné a 29 ans et la dernière fille, la cadette, elle a 13 ans. Je commence toujours ma journée très très tôt le matin, 6 heures du matin. Je suis prêt, j'inspecte mon véhicule, niveau carburant, niveau huile de pneu, et ensuite je prends rapidement mon shift. En accord avec mon dispatcheur, je suis attaché auprès de Alcatel. Je suis là avec le INPOL et gendarme de la mission. Donc ça se passe toujours en coordination avec mon dispatcheur de service. Je suis dans la mission depuis le 2 février 2001. Donc j'ai déjà 10 ans d'expérience dans cette mission. Et avant d'être au sein de la MONUSCO, j'étais agent au sein du groupe Shani Metal. J'ai eu à travailler au sein du service après-vente Caterpillar. Et évidemment, mon cursus scolaire, j'étais l'école primaire, c'est Saint-Georges à Kitambo, chez les frères des écoles chrétiennes. De 2 ans du cycle d'orientation, toujours chez les frères des écoles chrétiennes, à la montagne, qu'on appelait dans les temps Ngomba. Et ensuite, les études humanitaires commerciales, toujours chez les frères des écoles chrétiennes, dans la commune de Saint-Jean, qu'on appelle actuellement Dingwala. Et ensuite, après avoir fait mon travail chez Shani Metal, 26 ans de bon et loyaux service, je l'ai quitté l'entreprise en l'an 1999. Engagé au sein de la MONUSCO en 2001, j'ai maintenant presque 12 ans de service au sein de cette entreprise, la MONUSCO, plus précisément au département transport, section dispatch. Pour le loisir, j'aime bien le dimanche après ma prière faire la marche. J'aime bien la marche à pied, vous savez, avec l'âge de 60 ans, il faut bien se maintenir et être en forme, surtout avec notre emploi de chauffeur, il faut bien être en forme pour ne pas être un peu souvent dépassé ou bien dépaysé. Pour les perspectives d'avenir, pour l'agence, je pense que s'il plaira au bon Dieu, je vais essayer de continuer toujours à servir mes semblables. Surtout, je compte plus m'engager dans l'environnement, la nature, parce que j'adore la nature. Et quand je marche le dimanche en faisant mon sport loisir, je me sens vraiment de nouveau renaître pour commencer à attaquer la semaine prochaine avec force. Écoutez, pour la musique, la chanson religieuse, ça ne me va pas trop bien. Surtout la musique catholique religieuse. Et les messes latines, j'adore les messes latines. J'ai des CD chez moi à la maison le dimanche si j'ai rien à faire. Et en tout cas, j'écoute bien la musique religieuse latine. Et surtout le bon vieux temps de Franco et les anciens, le vieux gloire. Ça, c'est très bonne musique. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Patrick Ngbangar. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les cas de Mugunga concernant la prise en charge des déplacés et quelques réfugiés? Si Otia pourrait nous faire un peu allusion à cela.
Merci Patrick. Yvan Edoumou, chargé de communication et plaidoyer à Otia, répond à votre question.
La réponse en cours, c'est-à-dire qu'effectivement on a eu, avec ces derniers événements, on a dû quelque peu sursoir ou suspendre à certaines activités, mais les humanitaires restent présents dans le Nord Kivu. Les soins primaires dont ces personnes en ont besoin, que ce soit de l'eau, que ce soit des médicaments, que ce soit de la nourriture, il y a le PAM qui en ce moment tente de faire une distribution, pas à Mugunga 3 de façon explicite, mais dans la province, juste pour dire que voilà, l'aide humanitaire est en cours et on continue de rester sur le terrain, bien que les conditions de travail soient assez difficiles.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans vos carnets de rendez-vous, notez ces deux dates, 7 août et 9 août. Le 7 août, c'est la journée internationale de l'éducation et le 9, la journée internationale des populations autochtones. N'oubliez pas non plus que la semaine mondiale de l'allaitement maternel lancée le 1er août court encore jusqu'au 8 de la semaine qui commence. Enfin, ce lundi 5 août, en collaboration avec l'ONU Femmes, le bureau genre de la MONUSCO organise une réunion d'information et de mobilisation sur deux arrêtés ministériels portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la résolution 1325, la résolution 1325 du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre 2000 reconnaît notamment le rôle important que les femmes peuvent jouer dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimwini. J'étais à la présentation avec, du côté de la régie, l'assistance technique de Willem Lungamba. Nicole Ngaka était à la supervision de cette émission. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga au portage. Vous pouvez suivre de nouveau cette émission sur www.radiokapi.net. Vous avez une préoccupation ou une question par rapport à cette émission, contactez-nous en appelant au 082 30 76 630. Vous pouvez aussi laisser votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission ou carrément nous écrire à notre adresse email magun@radiokapi.net. Nous vous souhaitons une excellente journée dominicale et nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain.